France Culture.
Dans la première case, on voit de l'herbe, du ciel et une fleur et un oiseau qui la regarde. Et puis après, on voit l'oiseau qui s'envole en chantant en disant « L'année a commencé, la première fleur !» Et après, on revoit la fleur qui se dit « L'année a commencé depuis longtemps. Je ne me suis pas fait en une nuit, tout l'hiver, je me suis préparée. Quand les choses deviennent visibles, c'est qu'elles ont commencé déjà il y a longtemps. » Et ça, c'est dans la BD Tulipe de l'autrice française Sophie Guérive. Et moi, j'adore cette BD, j'adore Tulipe et j'adore cette fleur, là, cette histoire. Il y avait toujours juste un truc qui me chiffonnait un petit peu, c'était cette idée de la première fleur. En fait, d'après ce que j'avais compris, Tulipe, j'avais l'impression que ça se passait dans un climat tempéré, donc comme le nôtre, où comme ça, on a quand même le passage d'une saison à l'autre assez clairement, qui nous permet de conceptualiser un peu la succession des années. Et auquel cas, il y a tout le temps des fleurs, il y en a toute l'année. Bah ouais, il y a des fleurs en hiver, il y en a moins, mais il y en a plein. Par contre, dans le récit fondateur de notre culture occidentale, on parle de ce moment de les premières fleurs. On raconte que c'est il y a 133 millions d'années que les conditions matérielles nécessaires se sont enfin réunies pour faire advenir les fleurs. Et depuis lors, alors c'est l'incessante farandole. On est toujours botaniquement dans l'ère des fleurs. Et alors si on continue comme ça 100 millions d'années longtemps plus tard, alors là on dit force, pression, tectonique, géologie, fluidité des pierres, commence à s'ériger le massif de la ceinture alpine. Et encore 33 millions d'années longtemps plus tard, au cœur de ce massif alpin, Graziella, ma mère et moi-même, on attendait le train à la gare de Göschenen. Göschenen, c'est l'entrée nord du tunnel du Gotthard qui permet de passer sous les Alpes. Et c'est vraiment dans une vallée très étroite, entourée par des grandes montagnes très à pic, comme ça, assez impressionnante. Ce qui fait qu'il fait aussi toujours un peu nuit à Göschenen, même en pleine lumière. C'est assez glauque et on doit toujours y attendre les correspondances. Et alors ce jour-là, voilà, on traînait dans la gare en attendant notre train. Et il y a une autre particularité à Göschenen, c'est que sur le quai 1, il y a une petite buvette. Alors on est allé traîner devant et il y a tous les grands classiques. Il y a des tables et des chaises en plastique avec des pots de fleurs. Et tout d'un coup, ma mère, elle m'a pointé du doigt à un truc. Elle m'a dit « Non, mais regarde !» Et ce qu'elle me montrait, c'était une feuille A4 plastifiée sur laquelle il y avait écrit en gros « No pique-nique ». Alors vraiment, le climat est définitivement posé. Ça sera le moins sympa possible. Nous, heureusement, ça nous a fait vraiment pas mal rigoler. Et je crois que dans ce genre de cas, rire, ça permet de conjurer en quelque sorte le désespoir. Moi, ce qui m'avait retenu mon attention aussi, c'est qu'en anglais, « It ain't no picnic », c'est une manière de dire que ça va pas être facile. Nous, on aurait tendance à dire « c'est pas une promenade de santé ». Donc, heureusement, on a continué à rigoler, on a pu prendre notre train, on a franchi les Alpes et on est arrivé à notre destination, le Tessin, la Suisse italienne. Octobre à Lavorgo, c'est un des grands classiques de ma vie. J'y ai passé la plupart de mes vacances d'automne quand j'étais petite chez ma grand-mère, la mam. À, d'après moi, attendre qu'il arrête de pleuvoir pour pouvoir enfin aller ramasser des châtaignes avec elle. Je savais pas à l'époque que toutes ces châtaignes, elles avaient permis à tellement d'ancêtres de se nourrir pendant tellement d'hivers. Moi, quand j'étais petite, les vacances d'automne, on appelait ça les vacances de patates. Et je sais pas vraiment depuis quand ça dure, mais en tout cas, c'était la notion pour dire que les enfants, ils devaient avoir congé pour pouvoir aller aider leurs parents à récolter les patates. Quand j'étais petite, je me rends pas compte si mes camarades, il y en a qui allaient effectivement récolter les patates. Moi, je me rendais pas compte qu'on récoltait les patates de tout court, je pense. Mais ce que je sais, en tout cas maintenant, c'est que moi, les patates, je les récolte plutôt à la mi-août. Et qu'en Suisse italienne, il y a de moins en moins de châtaigniers. Il paraît aussi qu'au 15e et 16e siècle, le changement climatique, c'est un truc qui était plutôt connoté positivement, à tel point d'ailleurs que les colons européens, ils s'y seraient comme entraînés, voilà, sur des petites îles en Méditerranée, par exemple, ils ont à des endroits rasé tous les arbres, juste pour voir un peu qu'est-ce que ça faisait, et qu'ensuite, fort de ces connaissances, ça a permis de légitimer l'occupation des terres, en mode, ils sont arrivés en mode « poussez-vous, vous savez pas faire ». Et ça, je l'ai lu grâce à l'historien français Jean-Baptiste Fresseau. Et puis ensuite, j'ai lu Jane Rose Smith, qui est une géographe Eyak. Eyak, c'est un des peuples natifs de l'Alaska. Et Jane Rose Smith, elle conceptualise ce qu'elle appelle la normativité tempérée. Ça, c'est l'idée que ces colons européens, ils ne connaissaient qu'une seule civilisation, la leur, l'agriculture, avec toute la sociabilité sédentaire qui va avec. Véritablement, leur seule norme, c'était leur seul horizon. Et à tel point que quand ils ont été confrontés à des populations qui notamment habitaient sur, avec et dans la glace, les banquises. Là, c'était même plus « vous savez pas faire », mais c'était « non, mais ça, ça n'existe pas ». Ce qui revient pas mal au même que de dire « vous n'existez pas ». En tout cas, j'en finis pas de me féliciter d'être sortie de chez moi ce soir pluvieux de novembre, il y a presque 10 ans maintenant, pour aller écouter la sociologue néerlandaise Saskia Sassen. Car dans cette conférence, elle a commencé en disant qu'elle, elle trouve que définitivement le changement climatique, c'est un terme beaucoup trop mignon, et qu'elle, elle propose plutôt d'utiliser « dead land »,« dead water », »,« terre morte »,« eau morte », pour parler de tous ces phénomènes, effectivement, tant de sécheresse, de pollution, de réchauffement, de lessivage des sols, extinction des espèces. Et alors, moi aussi, à la suite de Saskia Sassen, depuis maintenant bientôt 10 ans, j'ai j'ai tendance à dire plutôt terre morte ou morte pour parler de ces réalités. Non seulement à le dire, mais aussi à le penser, parce que j'ai l'impression que ça fait juste globalement beaucoup plus peur, et qu'il y a des moments comme ça où la peur, ça permet de penser d'une manière un petit peu plus franche. Et c'est clair que ça fait peur, terre morte ou morte, mais à tel point que je me disais, mais en fait, ça deviendrait un super bon déguisement. Comme par exemple pour l'Halloween, on pourrait se déguiser en terre morte ou morte. Moi, j'aime beaucoup l'Halloween, cette période de la fête des morts et des mortes. Et j'ai adoré découvrir que, en Europe aussi, depuis des siècles, on fait déjà ce truc de se déguiser. Comment ça marche? C'était qu'il y a des personnes qui étaient sélectionnées dans les communautés et qui devaient aller s'habiller en quelque chose de bizarre, quelque chose de troublant comme ça, peu habituel. Et ensuite, ils venaient faire du porte-à-porte, toquer à toutes les chaumières. Et alors, on ouvrait la porte. Et ce qui se passait, c'est qu'on donnait à manger à l'entité, mais qu'en échange, l'entité, elle n'entrait pas. Et ce qui se mettait en place, une sorte de cercle comme ça, vertueux de protection, où on l'aidait dans sa subsistance et en retour, elle nous aidait en ne faisant pas entrer dans notre maison la chose troublante et bizarre. C'est un cercle vertueux qui est relativement symboliquement fort et troublant. Et moi, ça me parle assez bien de notre rapport assez troublé et troublant à la mort, effectivement. Et aussi, dans cette période de la fête des morts, j'ai découvert que dans plein de cultures et dans plein de langues, on dit cette même chose, que ce serait le moment où le voile entre le monde des vivantes et le monde des mortes est le plus fin, de plus en plus fin. Et moi, non seulement j'adore toutes les métaphores de tissu, mais là, j'ai vraiment l'impression, avec ce voile, qu'on sent presque comme ça un froissement de tissu, un presque contact, une sensibilité particulière qui me touche vachement. Après, je vois aussi pourquoi peut-être certaines d'entre vous, vous aimez moins l'Halloween. Je vois aussi qu'est-ce qu'on en a fait. Mais en vrai, moi, ça ne me choque pas particulièrement. Par contre, ce qui me choquerait véritablement, c'est si on arrêtait de faire quoi que ce soit à cette période-là. Ce qui est pratique quand on parle de mort, c'est qu'en fait, on parle toujours un petit peu de vie. Et moi, j'adore la vie. Vraiment, c'est un de mes sujets favoris. C'est une des protagonistes de toutes mes histoires. Mais aussi parce que justement, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas notre petit truc privé, personnel. Mais c'est bien véritablement ce que l'on partage. Toujours, toujours, on touche le monde. J'écoutais une émission sur les fleuves et il y a un type qui disait comme ça, oui, ben, il y a la formule chimique de l'eau qui serait H2O. Mais c'est pas H2O qui passe devant chez moi, c'est H2O plus la vie. Et ensuite, j'ai lu dans un roman de Paolo Cognetti, qui est un auteur italien, que tout pour le poisson d'eau douce vient de l'amont. L'amont, c'est quand on regarde une rivière, c'est là, depuis là où elle coule. Et effectivement, pour le poisson, bah, toutes les choses qui l'intéressent, les feuilles mortes, les insectes, les branchages, tout vient de là-haut. C'est ça qui le pousse à toujours regarder vers le haut. Et alors, le futur pour le poisson d'eau douce vient de l'amont. Mais moi, cette notion-là, ça a bouleversé 3000 mon point de vue d'alpine, de personne qui vient des Alpes. Parce qu'effectivement, à chaque fois que je voyais un fleuve ou un cours d'eau, j'ai toujours considéré que le futur, il était dans le sens du courant. Bah ouais, bien protégé au creux des montagnes comme ça, bah y a l'origine, la source et donc le passé. Et seulement longtemps plus tard, dans le mystère de la rencontre avec le sel, dans l'embouchure, bah là peut-être il y a un endroit où il y a le futur. Mais force est de constater que pour le poisson d'eau douce, le futur vient de l'amont. Bon, de toute façon, mon point de vue de personne qui vient des Alpes, il a complètement façonné mon rapport à l'eau qui court, au fleuve et au cours d'eau, et principalement avec mon rapport à mon petit chouchou de toujours, mon petit Rhône, et que bien sûr, je sais aussi les grandes largesses vers sa fin, mais en fait, à force, moi, de franchir les Alpes, je suis passée régulièrement devant la Fourca, qu'à la montagne où il prend sa source, et à cet endroit-là, c'est qu'un petit torrent qu'on peut franchir à pied, et alors autant vous dire que quand j'ai lu qu'il y a des endroits où le fleuve Congo, il fait 16 km de large, d'abord, j'ai pas compris. En fait, ça décrit un tempérament tellement différent. Heureusement, déjà à l'époque, j'étais complètement imbibée par la phrase de la poétesse états-unienne Adrienne Rich, qui est comme ça « A wild patience has taken me thus far ». C'est une sauvage patience qui m'a amenée jusqu'ici. Et en fait, cette phrase était en train de littéralement bouleverser mon rapport temporel à la patience. J'avais toujours considéré que c'était une immobilité. Mais là, cette notion que ça pouvait être une sauvage patience, ça pouvait devenir une sorte de mouvement. Alors, c'est devenu une sorte d'étendue dynamique, comme une étendue d'eau, le fleuve Congo de 16 km de large. Et puis finalement, heureusement, et effectivement, grâce à l'artiste suisse Pippi Lotteris, c'est devenu encore plus concret pour moi. Elle a fait une super installation qu'elle a appelée la patience. Elle a recréé toute une chambre au milieu de laquelle elle a mis un grand canapé blanc sur lequel elle projette une vidéo, comme ça où on voit en permanence le ressac des vagues de la mer. Et alors la patience, c'est devenu dans ma tête de l'eau, mais alors je me suis dit, mais quid de cette ressource? Est-ce que c'est une ressource renouvelable? Est-ce que c'est une ressource finie? Qu'est-ce que ça veut dire d'être à bout de patience? C'est quand le blackout de patience? Et puis j'ai des amis qui ont comme ça forgé une sorte de menace face à toutes les choses qu'elles n'ont plus envie d'accepter, qu'elles ne sont plus d'accord de subir. Elles disent juste comme ça, c'est la fin de la patience. En tout cas, 16 km de large du fleuve Congo, ça a beaucoup bouleversé aussi mon rapport au débit de l'eau. J'avais un rapport très domestique à ça qui venait de la si mal nommée eau du robinet. Et effectivement, l'eau ne vient pas du robinet, mais de l'autre côté des murs, de l'autre côté de ce voile-là, par des tuyaux, on est relié à beaucoup plus loin. Et ça, ça a été rendu très tangible pour moi grâce à l'autrice Rebecca Solnit, qui est une autrice états-unienne que j'aime beaucoup et qui semble toujours avoir un petit peu déjà écrit sur les choses qui me traversent. C'est toujours pratique. Et effectivement, dans un de ses livres, elle explique qu'elle a collé une photo au de son lavabo, une image de la vallée californienne dans laquelle prend sa source la majorité de l'eau qui est bue à San Francisco, là où elle habite. Et ainsi, à chaque fois qu'elle se sert un verre d'eau, elle a un lien avec cette vallée-là. Et c'est vrai que moi, déjà, quand j'arrivais quelque part de nouveau, je me demandais toujours quel goût aura l'eau, et que maintenant, j'ai tendance à essayer de savoir d'où elle vient, l'eau qu'on boit. Ce qui m'a poussée à me poser un peu des questions sur la consommation d'eau potable. Et alors, je suis tombée sur une habile étude qui parle de la Suisse, pour le coup, et qui dit que depuis les années 80, on aurait fait des grandes économies d'eau potable. C'est pas tant parce qu'on a appris à faire pipi dans la douche, c'est principalement parce qu'on a des nouvelles technologies plus économes en eau. On a aussi beaucoup réduit les fuites dans le réseau, donc on a changé les tuyaux. Et surtout, on a vastement délocalisé des installations de production de divers secteurs industriels à l'étranger. Et ça faisait qu'à la fin de l'étude, on me disait, en 2017, chaque personne en Suisse consomme 300 litres d'eau potable par jour. Et puis l'étude, elle continue et elle dit, au final, chaque personne de Suisse consomme globalement 4000 litres d'eau. Et alors, j'ai fait le calcul, ça fait 3700 litres d'eau qui sont ailleurs, délocalisés, qui sont ailleurs utilisés pour produire les biens qu'on consomme ici, chez nous. Et pourtant, 3700 litres d'eau que ni on entend couler, ni on voit couler, on se dit bien quand même que quand les multinationales de chez nous, les Danone, les Nestlé, les Coca-Cola, poursuivent partout ailleurs la colonisation, en fait, ça devrait quand même compter dans le « chez nous ». Et en même temps, c'est quoi ce « chez nous » C'est quand même dangereusement vague comme notion. Moi, ce que j'ai réussi à circonscrire, c'est qu'en tout cas, chez nous, ça a l'air d'être toujours l'endroit où il y a le siège social du Club de l'Humanité. Et attention, vous ne laissez pas trop vite séduire par ce terme alléchant, vous allez voir. C'est une formule que j'emprunte à Ailton Krenak, qui est un journaliste, philosophe et auteur Krenak. C'est un des peuples qui habite le long du fleuve Watu, dans ce que nous, on appelle le Brésil. Et alors, Krenak, il dit comme ça que la colonisation d'une vaste partie du monde par l'homme blanc européen semble avoir été largement justifiée par le postulat qu'il n'y a qu'une seule bonne manière de vivre sur Terre. On retrouve un peu l'idée de la normativité tempérée, là. Et Krenak, il appelle ça le club de l'humanité. Et qu'effectivement, les populations devraient s'efforcer de réussir à adhérer à ce club, mais que rétrospectivement, ça a l'air de toujours plutôt quand même pas mal restreindre toutes les capacités d'existence et de liberté. Et notamment, il exprime ça habilement quand il parle de l'UNESCO, et qui est vraiment un des bons organes du club de l'humanité. Et lui, il décrit comme ça une situation où il y avait un bout de forêt au Brésil qui était en train de se faire complètement défoncer par l'extractivisme capitaliste. Et alors, les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il y en a qui ont dit, on peut faire le truc de l'UNESCO. Le truc de l'UNESCO, c'est de remplir un méga dossier dans lequel on va lister toutes les bonnes raisons pour lesquelles un endroit ne devrait pas se faire détruire. Et ensuite, on le soumet à l'UNESCO. Et alors, quand c'est bon, quand c'est validé, alors c'est bon, c'est protégé, on fait un cordon magique autour de l'endroit. Sauf qu'apparemment, visiblement, assez rapidement, il va falloir juste réouvrir un tout petit peu les discussions pour voir où est-ce qu'on pourrait quand même un petit peu détruire. Parce que alors maintenant, il va falloir trouver où construire le parking, l'espace pédagogique et la buvette. Parce que si c'est UNESCO, ça nous donne envie à nous, les touristes, de y aller. Et ça, ça a l'air d'être vraiment un des corollaires de cette manière qu'a le Club de l'Humanité de faire de la protection de la nature, c'est-à-dire faire cette sanctuarisation-là. Et on dirait bien que ça participe au processus inverse. C'est-à-dire que, à force de crier à voix haute, ici, c'est protection, on a fait cordon magique. En fait, ce qu'on dit à voix basse, c'est que partout ailleurs, ça peut être tout défoncé. Et ça, c'est vraiment très admirablement décrit par Rebecca Solnit dans son premier ouvrage qui s'appelle Savage Dreams, dans lequel elle met comme ça en parallèle 50 ans d'essais nucléaires dans le désert du Nevada et la constitution souvent très violente et voire meurtrière des parcs nationaux. Et elle écrit « Les parcs nationaux, non seulement contrebalance, mais peut-être même légitime les zones de sacrifice national. Et ça, ce serait toutes les zones qu'on abandonne à des usages super mortifères de la terre, des mines, des usines, des décharges, des fermes intensives, des zones d'activité commerciale. Et moi, ce qui m'a particulièrement touchée aux chutes du Niagara, c'est que j'ai l'impression qu'effectivement, ça conjugue parfaitement ces deux réalités-là. C'est effectivement une des merveilles du monde naturel, mais tout en même temps, c'est aussi déjà depuis plus de 150 ans une grande zone de sacrifice national. On a transformé les chutes du Niagara en un énorme barrage hydroélectrique. Alors, la nuit, l'eau coule toujours, évidemment, mais ce qui se passe, c'est qu'on éteint les lumières et on la fait couler dans des énormes conduites forcées, ce qui produit beaucoup, beaucoup d'électricité bon marché localement. Et un des nœuds de l'énergie, c'est que justement, c'est le transport qui coûte cher. Et alors, ça a comme ça toujours attiré des vagues successives d'industrialisation dans cette zone-là. Et la dernière en date, justement, c'est... Alors, nous, on a utilisé le fleuve Niagara comme une sorte de frontière entre les territoires qu'on appelle le Canada et les États-Unis. Et ainsi, il y a une ville de chaque côté du cours d'eau, comme ça, qui se font face. Et alors, à Niagara Falls City, du côté états-unien, il est dit que vraiment, de tout temps, on entendait très, très fort le fracas des chutes d'eau en permanence, comme ça, donc un bruit assez fort. Mais bon, c'était le fracas des chutes, quoi. Et que depuis quelques années, ce bruit, il a été intégralement recouvert par le ronron permanent des ventilateurs de refroidissement de tous les data centers qui sont venus s'agglutiner à cette énergie bon marché. Et visiblement, il y a pas mal de manifestations et de protestations de riverains et riveraines. Fait que Niagara, c'est véritablement devenu une énorme infrastructure techno-naturelle et c'est plus un très bon endroit pour aller voir la nature naturelle. Mais par contre, ça en fait un bon endroit pour aller voir une certaine forme de la nature humaine. Et moi, c'est ça que j'ai particulièrement apprécié dans ma visite là-bas. En 2012, j'étais pas très loin avec des proches et du coup, on s'est dit bon, mais on va quand même y aller, aller voir cet endroit mythique comme ça. Et alors déjà, ben, vraiment, les chutes d'eau, elles sont magnifiques. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant. C'est très grand et fort comme ça. Mais d'autant plus, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il y avait tellement de gens. Et tellement de gens de toutes les formes, les langues, les couleurs, les habits. Je suis encore persuadée aujourd'hui que c'est pour le moment l'expérience la plus multiculturelle de toute ma vie. Et à tel point que j'avais comme ça un peu envie d'aller toucher des gens discrètement pour me dire que j'aurais touché des endroits différents de la planète. Et puis surtout, on était toutes en train de faire exactement la même chose, c'est-à-dire de faire comme si les autres n'étaient pas là, comme si sur toutes nos photos, il n'y avait pas à minima au moins 20 inconnus au premier plan. Après, les proches avec qui j'étais ont quand même pas pu faire autant abstraction de cet énorme tourisme comme ça. Et vraiment, ça leur a littéralement gâché la vue des chutes. Mais en ça, ils ont été presque un peu visionnaires parce que j'ai lu que depuis qu'on y a été, ils ont encore construit beaucoup plus de méga hôtels, surtout du côté canadien. Et à tel point que, en fait, maintenant, il y a tellement d'hôtels que ça a dévié le sens d'un certain vent. Et les jours où ce vent-là, il souffle, maintenant, il vient complètement lécher la paroi et fait que ça charge la brume d'eau magique des chutes de beaucoup de poussière et ça rend la vue complètement opaque. Alors bon, ne vous en quittez pas, il n'y a pas de doute que les ingénieurs du Club de l'Humanité sont sur ce problème et cherchent une résolution technique à ce problème technique. Il n'y a aussi aucun doute que la solution, ça ne va pas être de raser les méga hôtels. En poursuivant ma lecture de Hylton Krenak, ça m'a donné envie de proposer la constitution d'un autre club, une sorte de club de dissidence générale qui serait vachement plus flou comme ça, où il n'y aurait pas de carte d'adhérent et tout ça. Ce serait en quelque sorte le club du fond du panier et j'ai choisi de l'appeler le club des rustiques. C'est en hommage aussi à Krenak que j'ai choisi ce terme parce que lui aussi, il le dit, quand il décrit cette soi-disant humanité respectable, il dit que vraisemblablement, il reste une sous-couche brute, organique, rustique, une sorte de sous-humanité qui semblerait être encore fermement accrochée à la terre. Alors le club des rustiques, c'est le club de dissidence générale contre tout système qui s'impose comme naturel et auquel on aurait d'autre choix que de s'adapter. C'est le club de toutes celles et ceux qui sont fermement accrochés à leur habitat, à leur milieu et qui se battent de toute leur vie et de toute leur force contre celles qui veulent les déplacer, les détruire, les décimer. Et si j'ai choisi de l'appeler Club des Rustiques aussi, c'est que j'ai l'impression que pour le moment, il n'y a pas d'autres gens qui se revendiquent de ce terme. Et en fait, ça me tenait pas mal à cœur de pas être immédiatement en train d'aller voler à quelqu'un d'autre un terme. Et effectivement, bah, rustique, c'est pas très attirant, c'est pas très sexy rustique, c'est un peu grossier, ça fait un peu campagnard, un peu gros chalet rudimentaire. Moi, je trouve en tout cas, ça a l'air d'être aussi le mélange parfait entre un truc fait sur mesure, mais aussi bon, un peu avec ce qu'on avait sous la main. Et puis surtout, moi, si j'aime rustique, c'est parce que je l'utilise dans un autre contexte, et c'est que je l'utilise avec les plantes rustiques. Et ça, c'est comme ça que dans nos climats tempérés, on appelle les plantes qui supportent les températures négatives et qui restent tout le temps avec nous et passent l'hiver et sont toujours persistent parmi nous. Alors définitivement, le club des rustiques, c'est le club de tout ce qui persiste, de tout ce qui survit. Et ça survit de toutes parts. Dans les landes, dans les forêts, dans les déserts, sur les rivages, sur les banquises, depuis des milliers d'années, il y a des gens qui habitent. Et ça, le club de l'humanité, ça l'arrangeait pas, ça lui gâchait la photo, ça lui encombrait un peu le récit. Alors par la force extrême, il est allé détruire, déplacer, mais il n'a pas anéanti. Alors je comprends pas s'il n'a pas juste réussi à anéantir ou si c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça, mais toujours est-il qu'il reste toujours des êtres humains pour faire tâche dans les grands récits sans humains. Il y a toujours des survivants et des survivantes dans tous les effondrements, des populations qui ont trouvé des stratégies pour traverser les cauchemars qui leur étaient infligés et être encore parmi nous au XXIe siècle et à introduire un peu de dissonance. il y a une continuité. Et cette continuité, elle va dans les deux sens. La colonisation ou les colonisations, c'est pas quelque chose qui s'est passé juste avant, jadis, dans le passé, dans l'histoire, et qui serait comme ça fini, où il y aurait les grandes gagnantes et les grandes perdantes. D'après ce que j'en ai compris, la colonisation, c'est une dynamique de domination qui est chaque jour renouvelée. Et ça, ça fait qu'on peut plus juste penser que toutes les colonisées sont mortes. En fait, c'est clair que beaucoup, beaucoup, beaucoup trop ont été assassinées par l'empire colonial européen. Beaucoup trop. Mais pas toutes. Et ça, ça fait vraiment une différence. Par exemple, les populations millénaires pré-colonisation qui peuplaient et peuplent encore le grand continent qu'on a appelé américain, ces populations qu'on a réduites à ce terme absurde de les Indiens, ben les Indiens ne sont pas morts et leur culture n'est pas éteinte. Et leurs diverses cultures se sont certes vachement modifiées au contact très écrasant de la nôtre, mais néanmoins elles sont toujours bien vivantes et bien vécues. Et pourtant, on n'en finit pas de les présenter comme les vaincus. Et en fait, c'est hyper bien foutu et c'est hyper toxique. Cette culture dominante à laquelle j'appartiens, elle prétend comme ça juste avoir tout gagné. Et en fait, on finit par y croire, on finit par l'admettre, même quand on le déplore. Et ça, justement, c'est Rebecca Solnit, dans sa grande finesse, qui m'a aidée à comprendre ça. Et ce qui m'a particulièrement aidée aussi, c'est qu'elle, elle parle de ça depuis le même point de vue que moi, c'est-à-dire en tant que femme blanche de la culture dominante. Et en fait, moi, j'avais envie d'aborder ces sujets, mais j'avais peur, parce que j'avais peur de immédiatement remettre en place tous les mêmes schémas de domination, et vraisemblablement, on a une tendance à faire ça. Mais en fait, la peur, ça suffit pas pour pas faire. Et j'ai l'impression qu'il est vraiment temps qu'on aborde aussi ces sujets depuis notre point de vue. Et alors, il faut prendre des précautions, et il faut faire des efforts. Mais moi, un truc vraiment important, justement, qui m'a permis de capter ce truc qu'il n'y a pas eu de victoire définitive. Et ça veut dire que c'est pas fini ça. Et en fait, ça nous arrangerait beaucoup que ce soit un truc fini et derrière, mais c'est pas le cas. Mais ça veut pas pour autant dire qu'on est coupable des crimes d'il y a 500 ans. Mais par contre, on est responsable d'en jouir toujours autant aujourd'hui, tout en faisant un peu comme si ça allait de soi, et d'autant plus en faisant comme si c'était pour le bien de tous. Comme là, en recommençant à aller s'approprier ailleurs les ressources nécessaires à notre soi-disant transition. En fait, la rappeuse française Billy Breloque, elle le chante hyper bien quand elle chante comme ça. « Elles sont revenues, les caravelles, elles avaient trop soif, elles remontent en selle !» Bon, c'est des vastes sujets, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'avais envie en tout cas de vous parler encore du land back. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé spécifiquement dans le nord du continent qu'on appelle américain, donc dans ces territoires qui ont subi une colonisation de peuplement. C'est-à-dire que les colons européens, ils y sont allés, et puis ils s'y sont installés, et ils y sont restés, et ils y sont encore. Et en fait, quand même, des fois, quand on réduit de cette manière-là, ça devient un petit peu plus ahurissant. Et alors, effectivement, dans le contexte de cette colonisation de peuplement, eh ben, le terme décolonisation, des fois, il prend toute une ampleur littérale dans le land back, c'est-à-dire rendre la terre. Il y a une série hyper bien qui s'appelle Reservation Dogs, et dans un des premiers épisodes, on voit un couple de personnes blanches qui ont l'air d'arriver en Oklahoma dans une ville, et il y a un panneau qui dit « Ah, bienvenue dans la ville !» Et tout autour, il y a des gros graffitis avec écrit « Land back, land back, land back !» Et puis, on voit le mari qui, comme ça, il regarde sa femme et il dit « T'as vu c'est quoi ?» Et elle dit « Bah, un truc des Indiens !» Il dit « Ouais, mais c'est quoi le land back ?» Elle dit, ben, rendre la terre. Et il dit, mais genre tout ? Mais ouais, genre tout ! Rendre la terre, rendre l'accès, le choix, la vie d'avant, l'autonomie. Et ça veut pas dire que maintenant les colons, ils doivent repartir, mais qu'à minima, ce ne soit pas les colons qui décident de tout. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est que le land back aussi, il a beaucoup fleuri maintenant, et ça donne aussi le water back, rendre l'eau, il y a le ice back, rendre la glace. Bon, moi, je fais la version vraiment très résumée de ça, mais heureusement, il y a des gens qui le développent beaucoup plus. Et notamment, il y a un texte, moi, qui m'a beaucoup touchée, et qui est écrit par deux personnes simultanément, c'est Eve Tuck, qui est une chercheuse Unangax, ça c'est un des peuples de l'ensemble culturel des Inuits, et puis Ki Wayne Yang, qui lui se décrit comme un colon transgresseur. Et alors ainsi, ils mélangent leurs deux perspectives différentes dans un texte qu'ils ont appelé « La décolonisation n'est pas une métaphore », et dans lequel ils proposent de justement se mettre bien d'accord sur quels termes on utilise et dans quel contexte et pourquoi et qu'est-ce qu'ils voudraient dire. Et ils disent qu'ainsi, ça permet de ensuite se montrer beaucoup plus impatients les uns et les unes avec les autres et d'arrêter d'accepter que des demi-mesures ou des gestes purement symboliques. Et moi, alors, cette impatience, je la trouve incroyable, je trouve qu'elle est ambitieuse, elle est bienveillante. C'est l'impatience qui dit, en fait, on va se donner ensemble maintenant les moyens de... Et alors si c'est bien la fin de la patience, pour moi c'est la fin de la patience avec les grands raccourcis du club de l'humanité. J'entendais à la radio une spécialiste du barrage Hoover, c'est le barrage qui donne toute son électricité à la ville de Las Vegas, qui a été construit dans les années 30 en plein désert du Nevada, dans cette période compliquée et sociopolitique qu'on appelle la Grande Dépression. Et alors voilà, la spécialiste du barrage, elle expliquait plein de choses. C'est un barrage très monumental et elle donnait plein d'anecdotes sur sa construction et comme ça. Et tout d'un coup, comme ça, au détour d'une phrase, elle a lâché un petit « Et tout le monde était content de la construction du barrage. Mais t'es sérieuse, tout le monde était content. Mais du côté mexicain du fleuve Colorado, les gens, ils n'ont pas eu accès à l'eau du fleuve pendant 6 ans. Les milliers d'ouvriers et d'ouvrières qui ont construit le barrage en plein désert, ils habitaient dans des bidonvilles. Mais tout le monde était content. » En fait, en vouloir à quelqu'un de 1930 de dire ça, ce serait anachronique. Mais en 2023, dire un truc pareil, c'est la honte. C'est toujours ne reproduire que l'histoire majoritaire, celle qui va comme ça choisir qui c'est qu'elle veut ou pas laisser dans sa photo. Moi, en fait, j'en peux plus de ce manque de nuance et de précision dans le langage. On a vu avec Terre morte aux mortes que le langage, il a d'incantatoire. Comment on dit les choses, ça change comment on les pense. Et franchement, entre manque de précision et mensonge, souvent le voile, il est fin, fin, fin. Non, mais ça, c'est de la LED, ça consomme rien. Ah bon, c'est magique. Ok, d'accord, l'électricité, c'est pas très tangible, mais si on transpose ça, par exemple, à une récolte de patates, bah, la différence entre peu de patates et pas de patates, c'est la différence entre manger peu ou manger pas, c'est la différence entre vivre ou mourir. Ou alors, moi, j'en peux plus de tout le temps entendre et lire si fréquemment ce truc de « la biodiversité s'effondre, la biodiversité s'effondre, tu, la biodiversité, elle s'effondre pas, elle se fait détruire. » Et c'est quoi la biodiversité? C'est la diversité de la vie, du vivant. Et en fait, ça, ça veut dire nous aussi. Ah ouais, ça change un peu quand on le dit comme ça. Quand... Ou alors ce truc de le durable. Ah, le durable, attention, il faut faire du durable, on veut faire du durable, il faut que ce soit durable. Et tu, le durable. En fait, est-ce qu'on s'est mis d'accord à un moment sur exactement qu'est-ce qu'on a envie ou pas de faire durer? Et alors, en dessert, le Festival international du manque de nuances. Le nucléaire, c'est une énergie verte. Mais de où c'est vert le nucléaire? Mais moi, je pète une pile! Non, elle est vraiment d'accord, pendant 12 secondes, lors du moment précis de la création d'électricité, ça produit pas plus de carbone que les autres trucs. D'accord. Mais en fait, par exemple, rien que l'uranium, qui est vraiment essentiel à la production d'énergie atomique, il habite jamais dans le chez-nous. Et du coup, il vient comment? Depuis le Kazakhstan, le Canada, le Niger, il se téléporte? Ben non. Et du coup, c'est des bateaux et c'est des camions. Et en plus, nous, on a cette obsession carbone. Mais en fait, le nucléaire, c'est déjà tellement de béton. Et du coup, c'est tellement d'eau. Alors bien sûr, pour le refroidissement déjà, mais aussi rien que par exemple, un truc qu'on pense jamais. En fait, les habits des personnes qui travaillent dans les centrales nucléaires, ils sont toujours légèrement contaminés. Ça veut dire qu'à côté de chaque centrale, il y a une petite laverie spéciale pour décontaminer les habits. Et ça rejette en permanence de l'eau légèrement contaminée. Et puis, il y a le problème des déchets. Ça fait 70 ans qu'on fait de l'énergie atomique et on n'a toujours aucune solution viable pour les déchets. Mais c'est épouvantable. Et on balaye cette question, mais comme si c'était un problème domestique, un problème de femme au foyer, les déchets nucléaires, alors que c'est justement au cœur de cette logique insoutenable. Et franchement, je suis tellement raisonnable. Je suis même pas en train de dire à quel point c'est tellement dangereux pour tout ce qui est la vie, le nucléaire. Alors wesh, non, le nucléaire, c'est pas vert. D'ailleurs, c'est pas une couleur. C'est un enfer mortifère, industriel, capitaliste, colonial, patriarcal. En fait, il faut arrêter immédiatement. Nous, les antinucléaires, on nous rétorque tout le temps « Ah, mais vous voulez quoi? Le retour à la bougie ?» Et à tel point qu'on se fait appeler les pro-bougies, même par les gens qui nous aiment bien maintenant. Mais c'est clair, moi je suis pro-bougie. Moi j'adore m'éclairer aux bougies. Déjà, bon, ça tombe bien, j'aime bien la lumière tamisée. Mais aussi, j'aime juste pouvoir reconvoquer un tout petit peu de ce feu sacré si facilement. Mais alors vraiment, je m'éclaire pas à la bougie par sacrifice individuel ou pour me préparer. Non, c'est juste un peu pour me rappeler que dans quelques rares cas, d'accord, mais des fois, la lumière de la lune aussi, ça suffit. C'est pour pouvoir choisir moi-même, en fait, c'est ça, retrouver un peu de latitude par rapport à tout ce qui est fait en notre nom tout le temps, et surtout ce systématique et inquestionné recours à l'électricité. Et ça, moi, il y a un soir, ça m'a littéralement submergée. En fait, j'attendais le bus dans un endroit, et quand il est arrivé, j'ai découvert que dans cette ville, maintenant, les bus, ils ont remplacé les rétroviseurs, c'est plus des miroirs, mais c'est des écrans qui sont reliés à des caméras à l'arrière du bus. Et alors, sûrement, ça change quelque chose en termes de sécurité routière, mais vraiment, je me disais, mais alors déjà, on n'est pas très fort à fabriquer des bougies. Je vous raconte pas à fabriquer des miroirs. Mais si maintenant, on remplace tous les objets qui n'ont pas besoin d'électricité par des objets qui en ont besoin, mais en fait, on fait quoi? Et moi, vraiment, ce soir-là, ça m'a englouti. Ça a été Niagara 3000 sur mes joues toute la nuit. C'était vraiment trop la rouille. Moi, je connaissais pas avant cette expression de « c'est la rouille » et je l'ai découverte dans un contexte particulier où j'étais en train d'essayer de co-organiser une manifestation contre la centrale nucléaire du Bugey qui est entre Genève et Lyon. Et justement, j'étais en train d'essayer de convaincre mes copaines de Lyon qu'il fallait venir parce que ça les concerne, parce que c'est vraiment tout proche de Lyon. Et alors, j'expliquais qu'on allait commencer voilà sur la commune de la centrale qui s'appelle Saint-Vulbas. Et là, il y en a un qui m'a dit « ah non, mais c'est à Saint-Vulbas, ah, ça va être la rouille !» Et alors, bah moi, je connaissais pas Saint-Vulbas si bien. Je me disais « ah, mais peut-être il y a un passé industriel, il y a comme ça des grands hangars rouillés. » Alors bon, ça a bien fait rire mes amis qui ont dit bah non, c'est en fait ça va être la rouille, ça va être trop chiant quoi, il y aura personne, on va littéralement rouiller sur place. Ouais, ben c'était un peu prophétique visiblement parce que ouais, on était 200 au lieu des 20 millions escomptés et franchement, il y avait une pluie mais mythologique. Donc ce jour-là, on n'a malheureusement pas fermé la centrale nucléaire du Bugey, mais par contre, ça a signé au moins l'arrivée de la rouille dans ma vie et effectivement depuis, je la vois partout, mais parce qu'en fait, elle est partout. Moi, j'y connaissais rien à la rouille, j'étais persuadée qu'il fallait absolument de l'eau. Bon, c'est pas complètement faux, mais c'est disons dans l'eau, il y a beaucoup d'oxygène et en fait, c'est l'oxygène, c'est une oxydation. La rouille, c'est la corrosion du fer et la corrosion, c'est le fait pour n'importe quel métal de se faire oxyder par l'oxygène. Et alors comme la majorité des métaux sur Terre, ils avaient déjà rencontré l'oxygène il y a bien longtemps, ben, ils étaient comme ça présents sur Terre sous forme d'oxyde de fer. Moi j'imagine un peu de la poudre, c'est pas hyper vrai mais c'est un peu ça. Et alors ce qui est incroyable et si stylé, c'est qu'à l'âge de bronze, l'humanité a réussi à prendre ces oxydes de fer et à force de les travailler dans les forges comme ça, a réussi à en sortir des énormes bouts de métal. Et ce qui est d'autant plus stylé, c'est que dès que les bouts de métal sortaient des forges, bim, l'oxygène recommençait à les oxyder, ou plutôt genre... Et alors j'ai compris que si effectivement c'est depuis l'âge de bronze qu'il y a ça qui se passe, c'est pour ça que le type qui a écrit le livre sur la rouille, il l'a appelé The Longest War, la guerre la plus longue. Et ensuite j'ai réfléchi que quand même avant l'âge de bronze, il y avait le néolithique et ça c'est le moment où on aurait comme ça choisi de faire la meilleure civilisation avec l'agriculture. Et ça, ça veut dire, il n'y a pas de doute, on se battait déjà depuis un bon moment contre les limaces. Et après j'ai réfléchi qu'avant il y a encore le paléolithique et là il y a tout un moment où en fait l'humanité, on n'avait pas le feu. En fait il n'y a pas de doute, la première guerre c'est contre la nuit et le froid. Ensuite il y a la guerre contre les limaces et après je veux bien croire qu'en numéro 3 peut-être c'est la guerre contre la rouille. En tout cas une chose est sûre, c'est que ça nous prouve que contrairement à ce qu'on aurait tendance à penser, le métal il est comme nous, il est mortel. Ça veut dire que dans l'archéologie du futur, dans des centaines d'années, en fait, ce qu'ils vont retrouver, c'est que les plus gros empilements de béton de nos plus grands barrages et tous les déchets radioactifs et tous les plastiques aussi. La rouille ne dort jamais et ça va hyper vite, c'est 5 tonnes par seconde, 5 tonnes par seconde. Mais vraiment, il y a des trucs comme ça, on a besoin des statistiques, on peut pas les voir avec juste les globes oculaires. Et d'ailleurs, si on se met une limaille dans, fer dans l'œil, visiblement, il faudrait faire très attention. Dès qu'on l'enlève, il faut aussi curter la rouille qui a commencé à se développer dedans. Voilà, j'ai appris plein de trucs comme ça dans le livre sur la rouille. J'ai appris à considérer surtout que c'est la bataille permanente de l'humanité contre la rouille, que presque les deux tiers d'entre nous, on est quotidiennement impliqués dans cette bataille, que l'armée états-unienne a même déclaré il y a bien longtemps que c'était son ennemi numéro 1. Et en 2014, déclaration officielle de l'armée états-unienne qu'ils étaient en train de perdre la guerre. Après, il faut dire que notre arme principale contre la rouille de l'humanité, c'est la peinture. C'est ce fin voile de protection. Après, bon, on fait des trucs hallucinants avec la peinture. Il y a même des peintures que maintenant, on peut appliquer directement sous l'eau. J'ai appris aussi que les industriels états-uniens qui luttent contre la rouille se regroupent chaque année à une grande conférence qui s'appelle Méga Rouille, que dans l'industrie pétrolière, les personnes qui dessinent les plateformes de forage en haute mer mettent toujours 5 cm au fond de la plateforme d'acier en plus en disant c'est l'allocation rouille. Et quand j'ai appris ça, je venais d'apprendre que l'endroit où c'est le plus la rouille sur Terre, c'est Punta Galeta. Et ça, c'est l'entrée caribéenne du canal du Panama, c'est-à-dire que c'est cet endroit où il y a tous ces bateaux qui sont là en train d'attendre de pouvoir passer à la queue leu-leu un après l'autre dans le canal. Je me suis dit, c'est vraiment le grand moment de l'impôt sur la rouille pour tout le commerce maritime mondial. Et après, bon, c'est devenu vraiment juste trop la rouille pour moi parce que j'ai commencé à m'intéresser au canal du Panama. Et là, ça m'a vraiment foutu un de ces Weltschmerz. Le Weltschmerz, c'est la douleur du monde. Et l'allemand est si fort pour faire des si beaux groupes nominaux. Après, la rouille est pas mal aussi. Il y a des beaux termes dans la rouille, j'ai trouvé. Et notamment, par exemple, moi, j'ai bien aimé la fatigue corrosion. Et ça, ça nous parle d'une usure particulière qui vient de l'action conjuguée de l'environnement et d'une sollicitation cyclique. Et ce côté comme ça, cyclique, de la fatigue, ça m'a beaucoup parlé parce que moi, je suis très insomniaque. Ça m'a rappelé aussi le poète belge Henri Michaux, qui était aussi insomniaque, qui décrivait comme ça ses insomnies en disant qu'il avait l'impression de passer chaque nuit à pousser une brouette dans laquelle il y avait un crapaud qui devenait de plus en plus lourd, de plus en plus lourd. Et ce côté cumulatif de la fatigue chronique, des insomnies chroniques, ça me permet de si gracieusement glisser vers la maladie chronique. Cette maladie pour laquelle il va falloir prendre son mal en patience, parce que c'est celle qui n'a pour horizon non pas la guérison, mais toujours, toujours la maladie. Et moi, ce côté non temporaire de la maladie chronique, ça a été une grande surprise quand j'ai découvert ma maladie chronique. J'ai une maladie du pancréas. Mais ma première vraie surprise, en fait, ça a été de découvrir que j'avais un corps. Moi, ça, je le savais théoriquement, mais là, c'était même plus une prise de conscience. J'ai eu une véritable prise de consistance. C'était il y a bientôt maintenant 9 ans. Et j'ai commencé par une assez classique période de « mais pourquoi moi ?» Et ça, bon, c'est une question de malédiction. Mais assez vite, je me suis rendu compte qu'on aurait dit qu'il y a comme ça plein d'autres gens autour de moi qui étaient malades et qu'on est plus nombreux que je pensais. Et j'ai commencé à me dire « mais pourquoi nous ?» Ça, c'est plutôt une question de sciences sociales pour le coup. Et heureusement, depuis assez longtemps déjà, je suis juste confortablement installée dans le nous les malades. Et ça, c'est la vie et c'est la politique. Et si j'y suis si bien installée, c'est aussi grâce à une sorte de petite poignée de femmes, artistes, autrices, malades qui ont beaucoup écrit sur leur maladie. Et c'est ça qui m'a permis de naviguer dans ces eaux troubles de la maladie non temporaire. Ça a été de voir que, par exemple, on partage une assez grande méfiance, voire un malaise face à tout ce vocabulaire très guerrier qu'on retrouve dans les soins. Cette notion de c'est la guerre, on va aller se battre, c'est la bataille, le bombardement des cellules. Et en fait, quand c'est pour toute la vie, ça donne vachement moins envie de faire la guerre comme ça. Et ce malaise-là, il se retrouve aussi ailleurs. Et ça, c'est Caroline Lazard, d'une de ces autrices malades qui en parle hyper bien. Quand elle dit qu'elle s'est rendue compte au bout d'un moment que dans son entourage et dans ses proches ou dans des soignants super qu'elle aimait beaucoup, il y a beaucoup de gens qui commençaient à lui dire « Non, mais vraiment, mais une jeune fille comme vous, mais vous devriez être dehors en train de vivre votre vie. » Et elle, au bout d'un moment, s'est dit, mais en fait, moi, c'est ça, ma vie. Et aussi, je la vis. Et du coup, merci, mais aussi un peu, je vous emmerde. Et en fait, ça m'a permis de me rendre compte, la dernière grande surprise avec la maladie, c'était de réaliser le grand validisme de nos sociétés. Le validisme, c'est le prisme à travers lequel on peut voir que nos sociétés, elles sont vachement construites pour et par les personnes valides, c'est-à-dire les personnes qui seraient en forme, contrairement aux invalides, qui seraient les personnes malades ou les personnes handicapées. Et ce validisme, c'est une construction d'une norme capitaliste qui dit que, de nouveau, il n'y a qu'un mode par défaut d'existence, et c'est le mode en forme. Et alors vraiment, pour juger si on est en forme, c'est pas si on est de bonne humeur ou si on a de l'énergie, hein. Mais c'est est-ce qu'on est encore capable d'aller travailler. Et effectivement, les personnes invalides seraient les personnes qui peuvent plus aller travailler. Mais alors si la norme, c'est la forme, alors ça veut dire que la maladie, elle est que temporaire, et que du coup que le soin, il est que exceptionnel, il est jamais normal. Mais quand on commence à prendre en compte tout ce que la maladie a de non temporaire, toutes les formes de corps et d'existence hors normes qui sont pourtant bien vivantes et bien vécues, on se rend compte que la nécessité du soin, elle est en fait permanente. Et ça devient aussi très désirable, ça donne envie de transformer de nouveau toute la société autour de cette nécessité du soin permanente. Et moi, je suis persuadée que prendre soin, c'est pas juste se protéger comme ça individuellement, mais c'est vraiment se défendre ensemble, c'est lutter. En tout cas, toutes à leur manière différente, ces autrices posent cette question de comment rester un sujet politique, un sujet à part entière, quand on est la plupart du temps couché au lit et qui plus est dans des grandes souffrances. Et là, vraiment, la douleur, c'est une grande érosion de la patience et de la belle attitude. C'est tellement dur de rester sympa quand on a mal. Et pour le coup, moi j'ai l'impression que peut-être la douleur, c'est par contre cette expérience la plus singulière que l'on vit. On la vit vraiment qu'à l'intérieur de notre petit nous-mêmes. Et c'est assez difficile d'en parler, je trouve, et c'est difficile de comparer nos douleurs. Et en même temps, c'est important de pouvoir réussir à les exprimer d'une manière ou d'une autre. Et je trouve que pour ça, la médecine occidentale, elle a vraiment un super outil. Et c'est cette échelle de la douleur de 0 à 10 qui dit qu'à 0, t'as pas mal, et à 10, ce serait le mal absolu. Et alors, ce qui est incroyable pour moi dans cette échelle, c'est que pour une fois, elle sert pas à se mettre en compétition les uns avec les autres, à dire ah, mais toi, t'es que à 5 ou comme ça. Mais justement, c'est plutôt, il faut réussir à exprimer où est-ce qu'on pense que soi-même on en est et qu'est-ce qu'on pense qui est encore possible. Et ça convoque presque un truc qui serait de l'ordre de la confiance en soi dans la douleur, qui est assez étonnant. Moi, j'ai réalisé ça quand, rétrospectivement, je me suis rendu compte que j'ai quand même déjà répondu plusieurs fois 9 sur 10 à cette question et qu'à 9 sur 10 n'existait rien d'autre que la douleur. Et pourtant, j'avais réussi à me dire, bah ouais, peut-être il y a encore un espace ou quelque chose pour quelque chose de plus. En tout cas, quand on a des douleurs récurrentes comme ça, des douleurs chroniques, on le sait tous, on a tendance à essayer de les reconnaître pour aussi adapter notre niveau d'inquiétude par rapport à elles. Un jour, j'ai découvert que j'avais un indicateur en plus pour dire les moments où c'est vraiment les grandes crises. En fait, j'ai identifié que quelque part, plus loin que dans la douleur, au fond de moi, se déclenchait une sorte de panique, une sorte de détresse. Caroline Lazard, elle dit une terreur. Et cette panique et cette détresse, j'ai fini par comprendre que c'est mon corps qui pense qu'il est en train de mourir. Ça m'a pas mal bouleversée le jour où je l'ai compris comme ça. Et depuis, ben, j'ai appris à reconnaître effectivement quand elle s'active cette détresse et à du coup la calmer et me calmer et me dire bon, ben, ça va sûrement encore cette fois-ci bien se passer. Mais aussi, en fait, cette détresse, elle m'a rendu accessible une tendresse envers moi-même qui m'était jusqu'alors indisponible. Moi, plutôt, j'étais une jeune femme de la culture occidentale, donc par défaut, mon corps, plutôt, je le détestais. Et ça, vraiment, ça n'existe plus. Et je trouve que cette tendresse, elle est vraiment radicale. Des fois, la tendresse, ça permet de rendre les choses hyper claires. Et franchement, la maladie, c'est pas mal révolutionnaire aussi, au sens que ça bouleverse tout si facilement. En fait, jamais on penserait qu'on pourrait vivre de manière si différente. Et en fait, si. Et en fait, c'est du jour au lendemain. Alors franchement, moi, je suis persuadée que la douleur, c'est pas la sagesse, mais par contre la maladie, c'est pas mal la révolution. j'ai relu le journal du jardinier Derek Jarman, dans lequel il décrit l'hiver 89. Et en fait, c'est le même hiver qu'on est en train d'avoir en 2023, c'est-à-dire un hiver hyper sec, il n'y a pas de pluie, il fait hyper chaud. Et lui, il décrit comme ça qu'il est assez inquiet pour ses plantes et comme ça, il se demande ce qui se passe. Puis ensuite, il décrit l'été d'après, qui est vraiment un été caniculaire, très très chaud, beaucoup de sécheresse. Et tout d'un coup, il dit qu'il entend à la radio que les dirigeantes européennes vont se réunir dans un grand sommet sur le réchauffement climatique. Et puis ensuite, quelques jours après, il dit qu'il a entendu à la radio que les gens sont revenus et qu'ils ont dit « la solution, ça va être plus de nucléaire ». Et en fait, de ressentir ces échos-là à bientôt 40 ans d'écart, ça m'a remis comme ça dans les couches successives d'urgence de cette temporalité particulière de terre morte aux mortes. Derek Jarman, c'est un artiste, peintre et réalisateur britannique qui, à un moment de sa vie, a décidé d'aller habiter dans une toute petite maison sur une lande un peu lugubre comme ça, en face d'une centrale nucléaire, et de créer un jardin entre sa maison et la centrale. Et ça a fini par coïncider avec les dernières années de sa vie, parce qu'effectivement, peu de temps après, il a découvert qu'il était séropositif, qu'il était atteint du sida. Et alors, il a écrit son journal de jardinier artiste malade de ces dernières années-là, et qui s'appelle Modern Nature. Et moi, c'est vraiment un livre que j'ai beaucoup aimé et qui m'importe beaucoup. Et de toute façon, j'adore Derek. Et dans ma poche, j'ai une pierre de son jardin. Et entre Derek et moi, souvent, le voile, il est fin, fin, fin. Et là, en le lisant, je me suis quand même rendu compte que non seulement il était en train de faire cette expérience quand même particulière de se confronter à la quasi-certitude de l'imminence de sa propre mort, mais en fait c'était dans un contexte où la majorité de son entourage, ses proches, ses amis, ses amoureux, ils étaient aussi en train de mourir de la même maladie. Et il y a une ampleur de tragique là-dedans qu'on nous a quand même constamment minimisée. Le 13 avril 89, il décrit comme ça dans son journal qu'il fait son dernier téléphone à son ami Howard, qui va effectivement mourir dans les deux semaines après. Howard, à ce moment-là, il peut plus que grogner. Et alors, il écrit que bon, ils font 20 minutes de téléphone et qu'ensuite il raccroche et que Derek se demande un peu qu'est-ce que Howard a pu retirer de ce téléphone. Et ensuite, il finit comme ça la note en écrivant juste « Tears frozen as not to flood the world ». Les larmes gelées afin de ne pas inonder le monde. Moi, j'imaginais comme ça Derek avec une sorte de barrage de glace devant les yeux. J'avais envie de lui dire « Mais vas-y Derek, mais pète la digue, mais inonde le monde avec le fracas de la débâcle, nos yeux restent secs, secs et archi secs. La débâcle, c'est ce moment où les fleuves qui sont gelés, tout d'un coup, le courant qui est resté dessous, il reprend ses droits et il pète la glace dans des crissements atroces. » Est-ce qu'on s'aimera encore toute la vie, même quand on s'aimera plus? Dis-le-moi oui, est-ce qu'on s'aimera encore toute la vie, toute la vie? Il fait pas bon être anti-nucléaire de nos jours. Franchement, il y a quelques années, on pensait que c'était bon, que c'était plié, les centrales, elles fermaient leurs portes. Et en fait, maintenant, avec ce grand retour du mensonge du nucléaire vert, en fait, il y a toutes ces nouvelles convaincues, on doit ressortir des arguments qu'on pensait plus jamais avoir besoin de ressortir. C'est trop chiant. Moi, au bout d'un moment, je me suis dit, non mais en fait, les nouvelles convaincues, elles devraient juste recevoir, comme moi, toutes les semaines, les mails de Stop Budget, qui listent tous les problèmes techniques, tous les moments où ça ne marche pas dans l'industrie nucléaire française, mais aussi européenne, tous les problèmes qu'on nous cache. Et en fait, au bout d'un moment, moi, à force de recevoir ces emails, je commence à me dire que c'est vraiment un miracle qu'il n'y ait pas de plus gros problèmes. Et alors, je me suis dit, mais à tel point que peut-être il faudrait le prendre en compte en tant que tel, comme un véritable miracle contemporain. Alors, ça m'a rappelé qu'une fois, j'étais en vacances vers Lourdes avec un copain et qui m'avait dit, non, mais vas-y, c'est trop chiant ta maladie, là. En fait, on va aller à Lourdes, on va essayer de te jeter dans la source où la Vierge est apparue à Bernadette, peut-être ça va te guérir. Alors, on est allé jusqu'à Lourdes, après, on n'est pas allé à la source parce que vraiment, en fait, c'est pas le paradis, mais c'est l'enfer, Lourdes, c'est le Las Vegas du catholicisme. Et alors, je me suis dit, mais plutôt, faudrait se baigner à l'endroit où il y a les quatre tuyaux qui recrachent l'eau de refroidissement de la centrale du Bugey dans le Rhône. Bon, en vrai, je vais jamais aller me baigner là parce que vraiment, ça fait très froid dans le dos et très chaud dans le Rhône, cette zone. Mais aussi, c'est pas pour ça, c'est parce que principalement, c'est pas un miracle s'il n'y a pas plus de plus gros problèmes. Mais c'est bien grâce au travail de milliers de personnes dont globalement, on n'a pas grand-chose à cirer. Et c'est toutes les personnes qui font la maintenance des infrastructures et des installations. Et moi, je crois que la maintenance, c'est un des grands mots-clés de notre époque. Cette idée de prendre soin des choses avant qu'elles soient cassées. La réparation, c'est redevenu très à la mode et heureusement. Mais il reste un petit côté encore un peu macho dans la réparation. C'est ce truc de « Ah, c'est cassé, t'inquiète, je vais réparer ». Et en fait, ça demande et du matériel et du savoir-faire, des connaissances, alors que vraiment, la maintenance, c'est bien souvent que nettoyer ou surveiller. Et ça, c'est dans les cordes de la majorité d'entre nous. Et c'est ça qui fait que peut-être, c'est pas si sexy aussi. Mais bonne nouvelle, il y a un super ouvrage qui parle de tout ça et qui est sorti il y a quelques années. C'est « Le soin des choses, politique de la maintenance » qui a été écrit par deux sociologues français, Jérôme Denis et David Ponty, qui commencent comme ça en disant ben, « Il serait temps qu'on se rende compte qu'on habite quand même avec des objets et dans des infrastructures et qu'on essaye de réfléchir aux relations qu'on essaye d'établir avec. » Et la chose, moi, qui m'a particulièrement touchée, c'est qu'en fait, et c'est inédit quand même, ils ont choisi comme fil rouge de tout leur livre le travail d'une artiste conceptuelle états-unienne des années 70, Mirle Laderman Ukeles, qui est une personne qui a inventé l'art de la maintenance. Elle a voulu justement essayer de retourner ce soi-disant geste artistique unique en mettant tout le temps en avant les personnes qui faisaient la maintenance dans les institutions, dans les musées. Elle a notamment fait que les personnes qui nettoyaient les vitrines, elles le faisaient quand il y avait du public, et du coup, ça devenait comme une sorte de performance, et que ça articulait que c'était grâce à ce travail-là que les œuvres nous étaient rendues disponibles. Ou alors elle-même, elle s'est mise à genoux et elle a lavé derrière chaque visiteur qui passait, lavé le sol pendant des semaines et des semaines dans les musées. Elle est aussi en résidence à la Voirie de New York depuis plus de 45 ans et dans le cadre de cette résidence, elle a elle-même serré la main à plus de 8000 éboueurs et éboueuses pour les remercier de leur travail. Formidable, Mirle Laderman Ukeles. Et en plus, dans le livre, ils font aussi le lien évident peut-être, mais qu'il fallait quand même faire avec toutes les théories féministes du care, du soin, de comment transformer la société autour du soin permanent. Et puis alors, bien entendu, ils parlent aussi de la rouille, parce que c'est vraiment une question de maintenance, la rouille. Au Pentagone, à l'armée états-unienne, la personne qui a été mise en place, pour qui on a créé même le poste de la lutte contre la rouille, c'était Dan Dunmire. Et franchement, lui et moi, tout nous oppose. Et pourtant, j'ai été touchée de découvrir que lui, il a tout de suite dit qu'il fallait absolument sortir de cette logique d'attendre que les choses soient cassées pour les réparer. Il appelait vraiment de ses voeux un véritable changement culturel autour de ces questions-là. Et mais alors, l'idée que lui et moi, on croit en la même solution, ça me donne tellement confiance dans la solution, c'est-à-dire ce changement d'attitude, ce déplacement culturel. Et alors j'ai l'impression qu'une des premières étapes qui peut nous faciliter ce genre de changement, c'est de par exemple se rendre compte que quand les choses nous touchent, en fait c'est pas forcément que des belles idées, les belles idées ça devient aussi des belles pratiques, c'est souvent applicable, c'est pas bon que pour dans la tête, c'est souvent on dit, on fait. Et cette proposition que les belles idées c'est aussi des belles pratiques, c'est quelque chose que j'ai adoré retrouver dans le travail de Max Liboiron, qui est une personne Red River Métis Michif des territoires qu'on appelle nous le Canada, et qui est à la base biologiste mais qui se présente avant tout comme méthodologiste, en disant que la méthode c'est une manière d'être dans le monde, c'est comment vivre le monde que l'on veut au sein du monde que l'on a, quelles intransigences on veut garder et quels compromis on est prêt à faire. Et alors Max Liboiron, il dit qu'on a toujours une petite juridiction et que même à minima c'est bien souvent le langage. Et alors dans son laboratoire, il a mis en place un laboratoire de sciences anticoloniales et féministes au sein d'une université de sciences dominantes. Et c'est dans ce laboratoire qui traite surtout de la pollution de l'eau et qui du coup analyse des viscères de poissons. Il y a un type, moi j'y pense presque tous les jours à ce type, son travail c'est de tout relire les textes qui sont produits pour s'assurer qu'il ne reste pas des vieux relents de ce vocabulaire de sciences dominantes. Et notamment qu'il n'y ait jamais plus écrit le terme biomasse. Ça c'est vraiment un terme qui nous met tellement à distance alors qu'en fait LE il travaille avec des poissons et qu'en fait quand on remplace biomasse par poisson, ça change pas le résultat de la recherche, mais ça change vachement notre relation avec ce résultat-là. Et moi, alors, ce niveau de nuance et de précision, mais ça me donne tellement de la force et ça me donne confiance. Et en fait, il en faut de la force, hein, parce que vous avez sûrement remarqué, c'est bien en forme en face. J'ai encore entendu à la radio une spécialiste, cette fois-ci de la bienveillance, qui a réussi à dire qu'il fallait faire vraiment attention avec la bienveillance parce que ça peut être violent en contexte hiérarchique. Et j'étais là, allez, donc maintenant on arrive à dire que c'est la bienveillance et pas le contexte hiérarchique qui est violent. Mais c'est tellement nos pique-niques. Et encore, c'est rien par rapport aux nos pique-niques de l'enfer qui arrivent. Vous le savez peut-être pas, mais en Suisse, depuis quelques années, on a décidé de réouvrir les bunkers de la honte. C'est-à-dire de faire de l'accueil d'urgence de personnes réfugiées dans des bunkers, des abris anti-atomiques municipaux construits dans les années 70 dans presque toutes les villes. Et alors ça se passe comment l'accueil dans les bunkers? Donc c'est des grands dortoirs souterrains en béton comme ça, de à chaque fois une centaine de personnes, qu'on remplit avec très majoritairement des hommes, mais il y a aussi des femmes et des enfants, et c'est très majoritairement des personnes noires. Et bien alors tous les matins, les bunkers ils ferment. On sait pas pourquoi, mais les bunkers ils ferment, donc il faut sortir. Puis quand même, bon bah comme c'est l'hiver, il y a des endroits où il y a eu des solutions proposées, et nous par exemple on a eu accès à un endroit où il y a une salle avec une table. Puis la salle avec la table, elle fermait à 19h, mais le bunker il ouvre que à 20h, donc là encore, bon, il y a un petit battement d'une heure à attendre dehors dans le froid. Mais en fait, c'est qui décide? C'est qui la personne qui s'assied et qui écrit le protocole de comment on va faire l'accueil dans les bunkers? Moi, la prochaine personne qui me parle de tradition humanitaire de la Suisse, je la mords. C'est la honte, c'est la vergogna, vergogna, vergogna. Et à Genève, la première année, ils ont décidé de pas réouvrir les bunkers. Alors, ce qui veut déjà dire qu'ils ont trouvé des solutions au-dessus de la surface. Mais en fait, c'était toujours par tradition humanitaire. Ils ont fait une déclaration officielle où ils disaient que la ville de Genève avait trop peur d'un accident nucléaire à la centrale du Bugey. Et ce serait quand même dommage que les bunkers y soient remplis avec les exilés et qu'on puisse pas mettre la vraie population genevoise. Mais vergogna! Et alors, moi, je pense à ce niveau-là de racisme officiel et décomplexé. Mais en fait, l'apocalypse nucléaire, on la mérite. Effectivement, ça aurait au moins le bienfait d'accomplir cette grande prophétie de l'extrême droite qui a tellement peur du remplacement. Ben ouais, catastrophe nucléaire, toute la population suisse meurt. Et là, au bout de quelques jours, la porte du bunker s'ouvre et en Suisse, il n'y a plus que des exilés. Et alors attention, parce que ouais, les bunkers, c'est une spécialité suisse. Mais en fait, ce racisme abject et dégueulasse, il n'a pas de nationalité. J'ai même pas besoin de vous en donner des exemples tellement votre tête en est remplie. Et ça me fait toujours, toujours penser à Kimberly Jones, qui est une personne afro-états-unienne formidable, qui prend la parole en 2020 à Atlanta dans le cadre des manifestations Black Lives Matter contre les meurtres racistes de la police aux États-Unis. Et après un discours magistral sur la rupture du contrat social, elle finit comme ça en pointant du doigt face à la caméra et en disant « Mais vous avez de la chance, vous les Blancs, que la majorité des Noirs ne veuille que l'égalité et pas la vengeance !» Et c'est clair qu'on a de la chance et franchement, je sais pas comment on la mérite. Alors là, on se dit « Ouais, non mais la police aux États-Unis, ah ouais !» Et puis en Europe, en France, en Suisse, elle fait quoi la police? Elle fait la même. Elle tue des personnes noires juste parce qu'elles sont noires et en toute impunité. Mais vergogna! Quand il y a des femmes qui appellent pour dire qu'il y a leur mari qui les battent, la plupart du temps ils vont et ils parlent que au mari. Vergogna! Et là j'entends les ouais non, pas tous les. Ok, pas tous les dauphins sont gris, d'accord, il y a quelques dauphins qui sont roses, mais c'est pas la majorité non plus. Et là c'est même pas une question d'individus, de personnalité, mais c'est les institutions elles-mêmes qui permettent ça, qui distillent ce racisme à la racine. Et alors on se dit ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben on peut niquer la police, parce que ça aussi maintenant c'est pas que des belles idées, c'est devenu des pratiques. Dans le sillage de Black Lives Matter, il y a plein de gens qui se sont remis dans ce chantier là et qui ont décidé qu'il faut démanteler ces institutions, et tout en essayant de trouver la manière d'assurer la protection et la sécurité de chacun chacune, mais qui serait pas une manière qui reconvoquerait directement la violence et l'enfermement. Et alors à chaque fois, une des premières mesures, c'est d'enlever l'argent. Et c'est beaucoup d'argent. Et cet argent, alors après, on peut le redistribuer ailleurs, on peut le donner à l'éducation, on peut le donner à la santé publique. Parce que pour faire le soin permanent, malheureusement, les applaudissements, ça suffit pas. Il faut aussi beaucoup de moyens. Et en fait, ça, toutes ces choses-là, c'est des choses maintenant on pourrait décider de faire, on pourrait les choisir. Yes, pique-nique. Traîne encore ce dernier mensonge du club de l'humanité, comme quoi nous, les dominantes, on n'aurait jamais été autochtones, jamais été accrochées à la terre par des relations singulières et fortes. Mais bien sûr, ici aussi, les plus pratiques, elles ont été détruites, démolies, punies, brûlées, interdites. L'usage commun de choses communes, comme de l'eau, des sols, du bois, ou alors des connaissances plus populaires, une certaine forme de botanique, le savoir des sages-femmes, ou des constructions temporaires, artisanales, locales. En fait, ici aussi, l'ampleur du désastre, elle est énorme. Tellement de ravages, tellement de pertes, mais toujours pas de victoire définitive. On s'est toujours coupé le feu des brûlures, on parle aux verrues pour qu'elles partent, on se souvient que les taches de sang, il faut les laver à l'eau froide. Et quand la nuit, enfin, on dort, on rêve. Le poète britannique Kate Tempest le chante hyper bien quand il chante « We were here all along, we were in the mountains getting strong ». On était là tout du long, on était dans les montagnes en train de prendre des forces. Et c'est clair, ça donne des forces de s'accrocher à la terre. Non seulement ça donne des forces, mais ça donne du sens. Et là, c'est vraiment double kin, alors, parce que ce sens, on n'a pas besoin d'aller se l'approprier ailleurs. Attention, elles reviennent, les caravelles. Alors, dans cette méthode de superposition, de nuances, de couches et de voiles, s'énonce une part au moins, un reflet, un relais, un témoignage de nombreuses de ces patients sauvages, de ces autrements qui existent, surexistent, coexistent et qui survivent. Il reste que nous, les rustiques, au sein de la culture dominante blanche, on pourra essayer de s'en désolidariser autant qu'on pourra et qu'on voudra, mais on va toujours y rester fermement assimilés de la part des rustiques qui viennent d'ailleurs. Et je comprends. Franchement, c'est fair play. Mais c'est très désagréable, c'est très inconfortable. Mais c'est pas le prix à payer d'une culpabilité historique, c'est le poids infernal de cet héritage vraiment compliqué. Mais cet inconfort moral, c'est la moindre des choses. C'est en échange de tout le confort dont on jouit depuis des centaines d'années. Je suis certaine que si on veut se relever d'une manière ou d'une autre de cette situation, il va falloir apprendre l'humilité d'une personne qui essaye de se mettre debout sur un radeau. Alors cette temporalité-là, cette rouille qu'on se traîne, moi je crois encore que ça peut être le grand changement et pas juste le gros massacre. La rumeur géologique, elle raconte que quand la glace elle fond, et ben c'est son poids aussi qui se disperse et que comme ça toute la terre dessous, elle, littéralement elle décompresse un peu. On appelle ça le rebond post-glaciaire. Et alors si les glaciers ils fondent, ce que aussi je crois qu'ils font, moi je leur pleure des rivières et des fleuves comme dans la chanson de Ella Fitzgerald. Mais alors tout à la fois j'attends quelque chose de ce rebond, de cet inspire de la terre, cet élan, ce petit mouvement au creux du ventre du départ du Luna Park. En fait, dans leur fonte, les glaciers, ils nous recrachent aussi à la figure l'air d'il y a 300, 600, 3000 ans. Et comme ça, ils libèrent tous les génies, toutes les ingéniosités rustiques dans un grand vent à décorner les bœufs. Alors si le futur, il vient de l'amont, l'air frais, lui, peut-être, il vient de l'aval.
Fire of Emotions, Niagara 3000. De Pamina de Coulon. Réalisation, Christophe Hoquet. Avec Pamina de Coulon, prise de son, montage et mixage, Claire Levasseur, Clément Berman, assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Le spectacle Niagara 3000 est un épisode de la saga Fire of Emotions.